France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Hasard des géographies de lecture, j'étais très proche des montagnes du Jura qui sont au cœur du dernier roman de Pierrick Bailly lorsque j'ai commencé de le lire. Je ne sais pas vous, mais si j'oublie très souvent les intrigues des livres, je n'oublie jamais la manière dont la lecture a agi sur le paysage, comment un livre l'a fait vibrer autrement et moi avec. N'hésitez pas à nous raconter, chers membres du Book Club, la façon dont interagissent chez vous les mots lus et les choses vues. Aujourd'hui, meurtre, mémoire, mouton, amour et foudre sont au programme de votre Book Club. Pierrick Bailly est notre invité pour son dernier opus paru aux éditions POL en cette rentrée. Nous sommes lundi et vers 15h50, c'est avec Emmanuel Laurentin que nous avons rendez-vous. Il relie pour nous un fait d'actu à un ou plusieurs imaginaires littéraires. Aujourd'hui, il ouvre des livres d'Armand Robin et de David Grossman après l'attaque du Hamas survenue le 7 octobre dernier. À la toute fin de l'émission, vos trouvailles de lecture nourrissent le grand jeu des pages musicales et on se quitte en chanson. Vous avez le programme. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Pierrick Bailly.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. La foudre est le titre de ce roman paru aux éditions POL, on va y venir. Mais tout commence ici par un questionnaire de lecture pour faire un portrait de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et peut-être d'abord des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire ?
Non, je ne me souviens pas du tout d'avoir appris à lire. Je ne me souviens pas du processus d'apprentissage. Mais je me souviens de mes maîtresses à l'école maternelle. Je me souviens de mes différentes écoles. Dans des villages du Jura, il y a eu différents villages qui ont d'ailleurs des jolis noms. J'ai d'abord été à Poitefiole et ensuite à Pont-de-Poite. Et je me souviens des salles de classe, je me souviens de mes camarades de classe. Je m'en souviens très bien même. Donc voilà, je me souviens des gens, je me souviens des lieux, du contexte.
Mais assez peu des livres.
Je me souviens pas du tout. Si, je me souviens de mes premières lectures ou des livres que me lisaient mes parents à cette époque, parce que j'avais cette chance-là, d'avoir des parents qui me lisaient des histoires le soir. Mon père était artisan, il était tourneur sur bois, il travaillait à l'usine, à Saint-Claude, et ensuite à domicile, et puis de temps en temps, il partait pour des foires expositions, souvent dans des grandes villes, loin, parfois une semaine ou deux, Et quand il revenait de Strasbourg ou de Paris, il avait toujours des livres avec lui, des livres pour enfants. Ce qui était aussi normal, puisque dans le village où j'ai grandi, il n'y avait pas de librairie, il n'y avait même pas de boulangerie, il n'y avait même pas de café, il n'y avait aucun commerce. Et pour moi, les livres, c'était la grande ville. C'était à la grande ville ou à Paris, précisément, qu'on pouvait trouver des livres.
Ça revenait toujours du lointain.
Voilà. Et il revenait avec des lots de magazines, même plutôt que des livres au début, des magazines pour enfants, Les Belles Histoires, où j'aime lire. C'était pas les derniers, c'était déjà des magazines qui avaient quelques années. Et je me souviens de ses premiers livres, si. Je me souviens de Les Trois Sorcières, un livre des Belles Histoires que j'ai toujours, que je lis maintenant.
Je vois très bien, ouais.
Et d'un enfant qui s'échappe, qui gravit la montagne, qui rejoint une grotte où il y a des sorcières. Il croise quelques animaux mythologiques, un gargou griffu, un corbeau. Moi, j'ai grandi dans un village qui est au fond d'une reculée, entouré de forêts d'épicéas. Et une reculée, c'est une formation géologique assez typique du Jura, c'est une vallée fermée. Et au fond de cette vallée, où était le village, il y avait une cascade. Et j'ai passé mon enfance à escalader la cascade et à rejoindre la grotte qui était au sommet de la cascade. Et je l'avais baptisée la grotte des Trois Sorcières à cause de ce livre.
Donc ça veut dire que dès le départ, il y a une sorte, je parlais en début d'émission de l'interpénétration entre ce que je lis et ce que je vois, l'environnement qui peut être un environnement d'ailleurs assez souvent naturel, mais dans ce que vous racontez, Pierrick Bailly, ça se superpose. Il y a des choses directement venues de vos lectures et de l'imaginaire qui viennent baptiser des choses du réel.
Ah oui, ouais. Bon, je pense que la lecture, pendant longtemps, mais surtout au début, elle était un prolongement... du village, de la forêt, de la rivière, dans lesquelles je passais toutes mes journées. Je me retrouvais le soir avec, mettons, une version abrégée de Tom Sawyer, Bibliothèque Verte. Et je continuais à être là où j'aime être, c'est-à-dire dehors, dans la forêt, dans ma chambre, dans mon lit.
Quand on passe un peu quelques années, vous atterrissez vers quoi comme genre de lecture quand vous êtes par exemple un jeune homme et que vous avez peut-être la possibilité de vous acheter vous-même vos livres ou d'aller les emprunter, Pierrick Bay?
Il y a eu plein de choses. J'ai lu beaucoup de littérature américaine. Mais j'ai lu aussi, j'ai découvert un peu par, quoi, c'est un ami du lycée qui avait dû me parler de Beckett. Et je me souviens par exemple de Molloy, qui a été une découverte très forte. Cette langue incroyable, cette intelligence en mouvement. Voilà, c'est, je crois que c'est cette voix qui avance en cherchant, ça m'a vraiment parlé, qui hésite, qui revient, qui se reprend. Et qui doute aussi, cette voix assez fragile et en même temps très intelligente. Donc je pense à Molloy, je pense à... Et après, les écrivains américains que je lisais, là aussi, c'était peut-être en écho avec ce que je vivais, puisque c'était des écrivains qui parlaient de leur petit boulot, à une époque où moi je bossais à l'usine. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai lu ces auteurs-là, mettons Bukowski ou Hubert Selby Jr., que je me suis autorisé à écrire. J'ai jamais trop éprouvé le complexe dont parlent beaucoup d'auteurs, ou plutôt de personnes qui n'écrivent pas, du fait d'origine sociale modeste ou d'être loin, tout simplement. Moi, j'ai pas fait d'études de lettres. J'ai un rapport qui est pas du tout théorique à la littérature. Et pourtant, grâce à ces auteurs-là, ou même aux écrivains prolétaires français, j'ai lu Georges Navelle, Travaux, ça c'est un livre que j'ai relu d'ailleurs, c'est ce que je fais pas beaucoup, mais que j'aime énormément. Et c'est ces auteurs, c'est ces lectures qui m'ont autorisé à écrire. Et je me le suis autorisé grâce à eux assez facilement, je sais pas pourquoi.
Il n'y avait pas de préalable de l'écriture sur la lecture, vous n'avez pas commencé à écrire avant d'être un lecteur, Pierrick Bay?
Si, pourtant si, j'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée, avant d'être un vrai lecteur, ou d'être un lecteur, si. En vérité, j'ai commencé par remplir des cahiers sous forme de journaux intimes, à raconter mes journées au lycée, ce qui se passait bien, ou plutôt ce qui se passait mal, ce qui était difficile avec les autres. Et ça m'est venu comme on le fait à cet âge-là. Et puis, à la fin du premier cahier... Je me souviens avoir écrit en rouge sur le battant de la quatrième couverture. Je vous promets qu'on m'y reprendra plus, c'est fini, j'arrête là. Comme si c'était quelque chose de honteux à quoi je venais de m'adonner. Et puis j'ai pas pu m'empêcher d'entamer un deuxième cahier. Des cahiers comme ça, il y en a eu une dizaine. Je les ai tous jetés parce que j'avais ce sentiment de honte à l'idée de raconter ma vie. Et ça a duré jusqu'à la fin du lycée. Et puis... Après le lycée, j'ai fait de très courtes études de cinéma, mais le milieu étudiant était un endroit où je me sentais pas bien. Donc j'ai continué à écrire pour fuir ça, pour fuir cet univers-là. Et parce que je crois que l'écriture comme pratique qui implique la solitude me correspondait, répondait à mon besoin moi aussi d'indépendance.
Dans votre livre, il y a une scène très troublante, très belle, où un homme, le narrateur, se retrouve chez un autre homme, Alexandre, qui lui est en prison, et il se trouve qu'il a accès à sa chambre à coucher et qu'il voit un livre ouvert sur la table de chevet. C'est un livre dont il aperçoit quelques lignes, il le prend même comme une sorte de message, comme un avertissement. Il aperçoit un autre livre sur une autre table de chevet, mais celui-ci, il ne va pas l'ouvrir. J'ai trouvé que ça disait aussi... peut-être un rapport que vous pouvez avoir avec la lecture. Est-ce que vous avez une table de chevet, Pierrick Bay?
Non, je n'ai pas de table de chevet. Parce
Est-ce que
j'ai
vous avez
une
des
petite
livres
chambre,
près de votre lit, néanmoins?
Oui, parce que ce qui fait office de table de chevet, c'est une étagère IKEA, quoi, une bibliothèque IKEA. Et le rayonnage qui est au niveau
du
lit,
du lit.
Voilà, il est un peu vide pour accueillir les livres que je lis et parfois mes chats aussi qui viennent se superposer aux livres. Et oui, il y a quelques livres.
Et ils ont quoi comme statut dans votre roman? Ils ont une façon, mais c'est aussi parce qu'ils sont pris dans le roman, d'être très directement en lien avec ce qu'on pourrait comprendre d'un être, à la manière dont on pourrait avoir comme ça un peu magiquement et immédiatement accès à lui. Est-ce que c'est le statut de vos bouquins de chevet, Pierrick Bay?
Non, c'est les livres en cours, plutôt en cours de lecture. Donc ce sont soit des livres qui sont en lien avec ce que je cherche à écrire, ce que je projette d'écrire, soit quelques lectures du moment liées à des rencontres, à des personnes que j'ai croisées. En ce moment, ce sont des livres de la rentrée, parce que je croise des amis ou je fais connaissance avec des auteurs à qui j'achète les livres et réciproquement. Et donc, mais ça, c'est pas si souvent le cas, finalement. J'ai l'impression de pas avoir vraiment cette innocence-là, d'être un mauvais lecteur, parce que je suis souvent un lecteur intéressé.
C'est-à-dire qui cherche quelque chose.
Oui, voilà. Oui, qui cherche des échos, soit des thématiques, soit une langue qui va me stimuler en vue d'un livre que je veux faire. Ouais.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous attend, avec lequel vous auriez comme ça un rendez-vous ?
Il y a un livre que, il y en a beaucoup qui m'attendent dans le sens que j'aimerais les lire un jour et que c'est pas encore fait. Le livre qui me vient, c'est étrange, c'est le premier homme de Camus, que j'ai jamais lu, qui est un livre vis-à-vis duquel j'ai un rapport très étrange parce que je l'avais offert à mon père, à son anniversaire, quand je devais avoir une dizaine d'années, il venait de paraître. Et j'étais allé avec ma mère, mes parents étaient séparés, à France Loisirs, parce que voilà, ça n'existe plus, je crois. C'est des pratiques d'une autre époque, parce qu'elle devait avoir un abonnement là-bas. Quand on est à la campagne, je pense qu'on a plus facilement recours à ce genre de structure. Mon père, lui, il était abonné au Club Dial, par exemple, pour acheter des disques. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais comme il n'y avait pas de Fnac, évidemment, dans le village, il avait trouvé ça. Et donc, il fallait chaque mois, je crois, acheter quelques livres.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et ma mère m'avait dit, mais prends le premier homme, ce livre-là, ça pourrait plaire à ton père. Et je le lui ai offert. Et puis, mon père est mort il y a une dizaine d'années. Et j'ai gardé certains livres, certains de ces livres, pas tous, il y en a beaucoup que j'ai donné à Emmaüs, mais parmi ceux que j'ai gardés, il y a tous ceux qui lui ressemblent et que je lirai peut-être jamais, mais qui me font penser à lui, parce que c'est son univers à lui, sa culture à lui, et puis il y en a quelques-uns que j'ai envie de lire, dont le premier homme, mais je sais que j'ai une petite réticence à le faire, qui est lié peut-être à cette histoire, aussi peut-être tout simplement au fait que ce soit un livre inachevé. Je sais pas, il est nimbé d'une sorte d'aura un peu inquiétante. Il me fait un peu peur, ce livre.
On va aller vers votre livre à vous, Pierrick Bailly, avec cette chanson. Elle est extraite d'un disque qui s'appelle Aude, un disque paru en 2022 de Stéphane Escher, et la chanson s'appelle Orage.
Senti venir l'orage, les nuées dans le ciel. Senti monter ma rage, ma douleur, mon éveil. N'en tire pas davantage, n'en profite pas surtout. Pourtant ton visage, elle me lève ton cou. Regarde ce paysage, sa beauté, sa laideur. Regarde ce qui m'enrage, cette beauté, cette laideur. N'en tire pas davantage, de ma faiblesse ne joue. Ne me sors pas des flammes, ou me jette au loup. Parfum sa tiédeur, comme il saisit nos âmes, comme il veut nous faire peur. N'en tire pas davantage, n'en profite pas surtout. Pourtant ton visage, à mes lèvres ton cou.
Elle me demande si je crains l'orage, si j'en ai peur. Si moi j'ai peur de l'orage. Il y en a un qui a une frousse terrible de l'orage, ici c'est mon vieux Mistral. Dès que ça tonne, Il se met à couiner et se tapit à mes pieds en rabattant ses oreilles. Je finis par aller l'enfermer dans le coffre du berlingot. Ensuite, je retrouve le troupeau sous mon grand parapluie, parce que non seulement je n'en ai pas peur, mais j'aime l'orage. Quand les culinaux d'un bus envahissent le ciel et qu'on voit les promeneurs détalés comme des belettes affolées, qu'est-ce que j'aime ? Ce temps lourd, ces couleurs sombres et baveuses, ces bleus et ces noirs détrempés, toute cette écume effervescente au-dessus de ma tête. Puis quand ça se déchaîne et que le ciel se déchire et que ça vrombit dans les épicéas. J'aime entendre taper sur la toile et recevoir sur les mollets ces grosses gouttes d'eau tiède. J'ai peur pour les bêtes, mais pour moi jamais.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La foudre tombe plusieurs fois dans votre dernier roman, Pierrick Bailly. Tantôt elle apporte l'effroi, tantôt elle prévient du chagrin, tantôt elle rappelle la perte, tantôt elle soulève l'odeur d'une forêt en plein hiver où deux corps s'aiment enfin. La foudre, c'est le titre de votre dernier roman et il se lit comme ça, à toute vitesse, presque en un éclair. Pourtant, les choses ne s'y passent pas si rapidement. On les voit se mettre en place et se défaire. Un jour, le narrateur apprend dans un journal qu'un vieux camarade de lycée est accusé d'un meurtre, lequel Alexandre reconnaît avoir tué un type qui le harcelait, le tout sur fond de combat écologique. Le procès arrive, le narrateur berger qui devait quitter le pays pour la Réunion ne part plus tout à fait et se rapproche de Nadia, la femme d'Alexandre. C'est aussi l'histoire d'un homme qui en a profondément admiré un autre à l'adolescence jusqu'à vouloir son rire et qui, par la magie d'un coup de foudre, peut, quelques mois, quelques années, vivre quelque peu à sa place. Alors je disais qu'il y a une mise en place comme ça qui n'est pas aussi rapide que l'on pourrait croire, Pierrick Bailly. Le tout arrive par la lecture, une nouvelle. Il y a vraiment l'idée de l'annonce dans ce roman-là. Comment est-ce qu'il s'est annoncé à vous, le roman ? Comment est-ce que vous avez commencé à l'écrire ?
Je crois que j'ai d'abord commencé à penser au personnage d'Alexandre. Quoi. Le roman, il a commencé avec l'envie d'écrire sur l'idée de l'ami du lycée qu'on retrouve, puisque c'est une expérience que j'ai vécue ces dernières années. Je suis retourné vivre dans le Jura, et parce que je l'ai cherché aussi, j'ai retrouvé des amis d'enfance, des amis du collège, du lycée. Et j'avais pas un Alexandre vraiment au lycée, je l'ai pas retrouvé, cet Alexandre, moi, mais j'ai accumulé beaucoup de matière pour un personnage, d'un ami fascinant. L'impulsion, c'est vraiment l'ami du lycée, mais je pense que la nature d'Alexandre, c'est plus des personnes que j'ai rencontrées plus tard, entre 20 et 30 ans, après la publication de mon premier roman, typiquement, où j'ai fait la connaissance d'écrivains ou de gens assez lettrés, assez brillants, très érudits, très à l'aise à l'oral, qui m'impressionnaient, qui me complexaient aussi énormément. Et voilà, c'est la rencontre de ces deux éléments.
Est-ce qu'il était assassin immédiatement dans votre tête ? Est-ce
pas
qu'il
avait
tué ?
Non, pas du tout. J'avais le lieu aussi. J'avais vraiment les monts Jura, qui sont les plus hauts sommets du Jura. De toute façon, je situe tous mes romans dans le Jura, mais là, c'était typiquement cette montagne d'où on a un point de vue assez impressionnant sur Genève, sur le Mont Blanc, sur le lac, évidemment. Et j'avais un personnage, et puis il me manquait une intrigue. Et un jour, quoi, il me manquait, j'aurais pu écrire un livre sans intrigue.
Ça existe.
Oui, bien sûr, mais je sais pas, depuis quelques livres, je m'autorise pas à commencer tant que j'ai pas une intrigue. Et un jour, elle est venue, je sais plus vraiment comment, et elle m'a permis de rassembler tous les éléments que j'avais déjà en ma possession.
Bon, on se permettra d'avancer quand même quelques mini-mots de cette intrigue-là. Je peux quand même dire que cet homme, Alexandre, est accusé d'avoir tué un autre homme avec un gros coup de planche et c'est quelque chose qu'il ne va pas nier. C'est un livre, Pierrick Bailly, qui est ample et qui, après sa mise en place, cette fameuse nouvelle, l'hésitation au texto qu'on envoie à la femme de l'assassin, il y a une place qui est faite au procès, mais à toutes les réminiscences aussi de jeunesse. Vous parliez tout à l'heure de la voix de Molloy, alors sans faire de comparaison, mais et d'une voix qui hésite, qui doute, qui se questionne. Moi, quelque chose qui m'a attrapé immédiatement dans la langue de ce texte-là, c'est presque une façon de nous raconter, et une façon de raconter en doutant, en hésitant. J'ai même presque pensé à quelqu'un qui pourrait témoigner à un procès, qui pourrait témoigner en n'étant pas toujours sûr de la version des faits qu'il donne.
C'est vrai que le narrateur, lui, est très différent d'Alexandre. Alexandre est un personnage assez constant, assez stable tout au long du livre. Et le narrateur, lui, est beaucoup plus fragile. Il doute de lui-même et il est aussi d'ailleurs très influençable, d'où l'importance qu'a Alexandre pour lui. Et il passe son temps à changer au contact des autres. Précisément, il y a eu son grand-père qui a été son premier modèle. Ensuite, il s'est construit dans le reflet d'Alexandre. Et puis, en fonction de ses histoires d'amour aussi, il n'est pas le même. Il n'est pas le même en fonction des autres. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je connais aussi. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je suis assez admiratif des personnes qui arrivent à être les mêmes
constant.
En toutes circonstances. Voilà. Et c'est d'ailleurs assez fatigant d'être aussi facilement malmené par le contact social. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'il finit par s'enfermer dans son chalet d'alpage et par devenir berger, parce qu'il a besoin de solitude.
C'est d'abord comme ça qu'on le rencontre. On le rencontre comme un homme berger qui a une histoire d'amour, mais cette histoire d'amour, elle est espacée. Disons que la géographie joue sur cette histoire d'amour. Il y a un projet de départ vers la Réunion, un projet qui va être abandonné, mais on rencontre cet homme. D'ailleurs, on peut croire qu'au départ, la foudre va être un portrait de ce berger retiré, et puis c'est la survenue, en effet, de tous ces éléments extérieurs. Vous dites, Pierrick Bailly, qu'il est comme un peu plastique à ce qu'il rencontre. Je voudrais qu'on écoute la voix d'une auditrice qui s'appelle Fabienne. Elle nous parle de la fragilité de vos personnages en écho avec la fragilité des éléments.
La foudre, c'est un roman que j'ai lu, un des tout premiers romans de la rentrée littéraire. Et je me suis rapidement sentie bien sur ces chemins sinueux du Haut-Jura, avec la tension qui montait, votre écriture fine... Et les émotions aussi tortueuses de vos personnages que celles des paysages que vous décrivez. Je me suis posé une question et j'aimerais aujourd'hui vous l'adresser. Comment est venue cette idée de relier la fragilité de ce qui entoure vos personnages à leur fragilité à eux, puisque sans dévoiler l'histoire, nos personnages sont extrêmement fragiles dans ce trio amoureux du 21e siècle. C'était vraiment bien et j'aimerais bien avoir cette réponse. À bientôt.
Merci beaucoup Fabienne, j'aime bien, c'était vraiment bien. C'est beau de dire ça à propos d'un livre, Pierrick Bailly. La fragilité de vos personnages en écho avec la fragilité de ce qui les entoure. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette question, c'est qu'on ne sait pas exactement... En tout cas, moi, je ne sais pas exactement de quelle fragilité parle Fabienne. Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est les éléments? Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est les événements?
Bien, merci déjà Fabienne. Moi, je pourrais presque dire que je ne sais pas de quoi précisément il s'agit quand elle parle de fragilité, parce que je crois que je compose avec ce que j'ai à l'intérieur, et que si les personnages paraissent fragiles, c'est peut-être parce que je le suis tout autant, voire encore plus qu'eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'écris à la première personne, c'est que ça permet en tout cas cette voix qui hésite, qui doute. Et c'est quelque chose que, aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer. Ou alors, il faudrait que le narrateur ne soit qu'un passeur, ne soit pas partie prenante d'une histoire. Mais si le narrateur est partie prenante d'une histoire, tout ce qui est évoqué dans le livre et qu'il caractérise, ce sont des choses qui me traversent moi-même. Et j'arrive pas à m'empêcher de les mettre sur la page, toutes ces questions, toutes ces hésitations, toutes ces peurs aussi. Peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que je suis quelqu'un qui écrit ou qui soit assez trouillard, ou alors qui assume ça. Quoi. Je suis peut-être pas que ça. Quoi. On est tous plein de choses à la fois. Mais j'écris peut-être aussi beaucoup à partir de ce qui me fait peur ou de ce que je n'ose pas faire. Et comme je mets en place des situations que je me verrais mal affronter dans la vie, je me pose la question quand même de comment je me situerais face à une telle situation. Et comme je ne suis peut-être pas quelqu'un de très robuste ou de très audacieux, les premières choses qui me viennent, ce sont Voilà, ce sont des craintes.
Mais comme si c'était un laboratoire de pensée pour vous, écrire. C'est-à-dire, voyons voir ce que ça fait d'aller sous l'orage, voyons voir ce que ça fait d'être tout seul dans une maison et d'avoir un troupeau de brebis ou de moutons, voyons voir ce que ça fait de tomber amoureux et d'être bien dans la mer parce que c'est la femme d'un assassin. Voyons voir ce que ça fait.
Oui, il y a un peu de ça, ouais. C'est une manière de vivre par procuration, mais voyons voir. C'est une manière de vivre ces situations-là, ouais. Et puis d'y être aussi vraiment. Alors, dans une relation adultérine impossible, pourquoi pas, de façon fictive, voilà, et d'y être à fond, quoi, d'y être pleinement. C'est un endroit. C'est finalement assez confortable, hein, le roman, quand on l'écrit, puisque tout est possible. Et puis aussi de prolonger, comme je disais tout à l'heure à propos de mes lectures, de prolonger la montagne, le monde extérieur, puisque j'écris absolument pas sur le motif, quoi. J'écris pas comme les peintres allaient poser leur chevalet.
En regardant par la fenêtre.
Non, j'écris dans une petite chambre, dans un appartement, souvent à Lyon. Et quand je passe une journée à écrire l'histoire de Julien qui garde ses bêtes au col de la faucille, bah, j'ai l'impression d'être avec lui et d'y être moi aussi. Et ça me permet d'être tout le temps là où j'ai envie d'être.
Il y a peut-être de cette fragilité quand même dans ce qu'évoque Fabienne, c'est-à-dire fragilité ou force. Beaucoup de choses se passent dehors. Les rendez-vous amoureux entre Julien et Nadia, en tout cas ce qui va devenir des rendez-vous amoureux, c'est dans la forêt, c'est sur les chemins. Il y a beaucoup d'extérieur. Il y a peut-être la fragilité de ce monde-là. Je parlais d'un combat écologique et d'un affrontement jusqu'à la mort entre deux hommes qui n'ont pas la même version du rapport qu'on peut entretenir avec le vivant, sans aucunement en faire un roman ni théorique ni politique à cet endroit-là. Pierrick Bailly, il est quand même traversé de la façon dont on est en lien avec tout ça.
Oui, mais ce ne sont pas des sujets, je ne les traite pas comme des sujets de société. Mais oui, parce que tout simplement, les personnages ont une pratique concrète de la forêt, typiquement. Alexandre a un rapport savant à la forêt. Julien ou son grand-père, ils ont un rapport plus instinctif, plus intime. Et puis le jeune chasseur, il a un rapport, je sais pas, qu'on peut dire intéressé. Et c'est vrai que la plupart de mes histoires se situent à la campagne ou à la montagne. Et les personnages ont toujours un rapport très concret à ces lieux-là. J'aime bien faire la distinction entre le pays et le paysage. Le paysage, c'est l'endroit qu'on contemple, qu'on traverse, qu'on visite. Et le pays, c'est vraiment l'endroit où on habite. Qu'on éprouve au quotidien, où on travaille. Et c'est toujours des travailleurs, d'où le berger. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous me demandiez d'où vient ce livre. Au départ, j'avais Alexandre, j'avais les lieux, les Monts Jura. Et puis, je cherchais quel métier pour le narrateur. Et j'avais d'abord d'autres idées, qui étaient, par exemple, d'en faire un gardien de refuge, ou d'en faire quelqu'un qui travaille pour la réserve naturelle, sauf que ça impliquait le collectif, et je voulais un personnage
seul,
solitaire. Et un jour, je sais pas si ça vous intéresse que je raconte.
Bah, tout nous intéresse, on est là pour ça.
Allons-y. C'était pour mon précédent livre, à l'occasion d'une rencontre en librairie, à la boîte de Pandore, à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Je fais ce que je fais jamais d'habitude, c'est-à-dire je lâche 2-3 informations sur le livre que je veux écrire maintenant, et je dis simplement que j'ai envie que ça se situe vers le col de la Faucille, dans le Haut-Jura. Et à la fin de la rencontre, une amie de mes parents vient me voir et me dit « Ah, mais tu sais que tel ami d'enfance, Eugénie, est bergère à la Faucille. » Et moi, Eugénie, je l'ai bien connue quand j'étais petit, mais ça fait 20 ans que j'ai plus de nouvelles d'elle. Et puis, j'étais pas au courant et j'étais sur le point de me mettre à écrire ce livre. Et j'ai eu 2-3 jours de flottement. C'est un peu comme quand vous êtes bien dans votre boulot, puis vous avez une opportunité professionnelle qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas du tout anticipé, et vous devez peut-être saisir cette occasion. Et je me suis dit que c'était un peu au dernier moment, cette nouvelle, mais qu'en même temps, c'était dommage de ne pas la saisir. Donc, j'ai rappelé cette amie, je lui ai dit « donne-moi le numéro d'Eugénie ». Je suis allé voir Eugénie et je suis allé la voir souvent pour l'interroger, pour l'observer travailler. Et finalement, c'est devenu l'histoire d'un berger. Et j'en suis très heureux et je remercie Eugénie.
Dans ces personnages, il y a Alexandre, ce fameux ami fascinant qui a fasciné Julien. On va écouter ce qu'il peut en dire.
Avec Alexandre, qui était très cultivé, qui semblait tout savoir de tout, elle se permettait des échanges qui me dépassaient. Elles allaient avec lui sur des terrains où je ne pouvais pas lutter et parfois je le prenais mal. Parfois j'avais même l'impression qu'il s'enthousiasmait et qu'il riait contre moi. Je n'en montrais rien, je faisais tout pour que ça ne se voie pas. Au début, je n'avais pas accès à cette frustration. Je la dissimulais derrière des sourires et des postures qui m'en protégeaient moi-même. Je m'efforçais avant tout de ne pas perdre contenance, de sauver un peu de cette aisance toute fraîche, dont je pensais qu'elle allait me rendre encore plus populaire cette année au lycée, mais Alexandre était bien plus à l'aise que moi. Plus à l'aise, plus cultivé, plus drôle, plus charmeur. Il avait plus de style, avec son cartable de facteur en cuir élimé et son béret en tweed, comme quoi la mode vintage ne date pas d'hier. Étant donné sa corpulence, on pouvait le prendre pour un prof, un jeune prof. Il parlait comme un prof. Il parlait bien, toujours avec aplomb, comme s'il avait 20 ou 25 ans. Il était agréable à écouter. Avec lui, tout semblait couler de source, tout était simple, il n'hésitait sur rien. Ses propos étaient posés et lucides, il était au courant des faits d'actualité, des événements politiques, toutes ces choses qui appartenaient, pour moi, à une autre réalité, un autre monde dont je n'avais pas la clé.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On écoute encore quelques petites notes de ce travail musical de Boris Jolivet. Figurez-vous que c'est un enregistrement du lac d'Étival, Pierrick Bailly. On écoutait un extrait de La Foudre, votre roman paru aux éditions POL dans la voix de Jeanne Aléos. Une évocation d'Alexandre, il y en a plusieurs au cours du roman, et c'est d'ailleurs des visions qui peuvent changer. Cet Alexandre qui est donc accusé d'un meurtre, un procès s'ouvre et il revient, il fait retour dans la vie de Julien, au point que le roman oscille entre... Est-ce que c'est le coup de foudre pour Nadia ou est-ce que c'est l'attirance pour Alexandre et la possibilité comme ça de venir au plus près d'Alexandre qui fait que Julien s'approche, Pierrick Bailly, vous diriez quoi ?
Moi, je pense que c'est Alexandre. Je pense d'ailleurs que c'est pas lui qui se rapproche de Nadia, mais c'est Nadia qui vient le chercher. Nadia, elle vient chercher Julien parce qu'elle en veut à Alexandre. D'ailleurs, elle en veut de la façon dont il se défend. Elle le trouve égoïste, à chercher à tout prix à être honnête et à dire les choses comme elles se sont passées, à pas trouver un alibi, à ne pas penser à elle, à ses enfants. Et c'est elle qui, un soir, où elle reste dormir au chalet avec Julien, parce qu'elle a un peu peur, va le rejoindre dans son lit. Alors, il se passera rien ce premier soir, puis les soirs suivants non plus, mais... C'est elle qui va se rapprocher de plus en plus près de lui. C'est elle qui, on peut dire que c'est elle qui suggère le désir et qui suggère l'érotisme. Et lui, ça lui tombe dessus. Il voit pas ça venir. Il le souhaite pas plus que ça au début. D'ailleurs, la première fois qu'il voit Nadia, il se protège parce qu'elle est à ce moment-là assez sombre. Et il a pas envie d'être contaminé par cette histoire même.
Il est assez soulagé de plus avoir à porter cette histoire-là, quoi.
Et c'est toujours elle, oui, les premières fois qu'il contacte, qu'il relance. Et puis comme Julien, c'est un brave type, un type plutôt généreux, eh bien, à un moment, il va avoir envie de l'aider parce qu'il va sentir simplement qu'elle a besoin de ça, qu'elle est très seule. Et je pense que s'il l'aide, c'est pas seulement parce que c'est un bon gars, mais c'est aussi parce qu'il y a cette figure d'Alexandre qui a été très très importante pour lui d'une manière un peu spéciale. Puisque ils étaient voisins de boxe à l'internat en terminale. À ce moment-là, Julien était assez fasciné par sa personnalité à Alexandre. Et puis, ça s'est mal fini. Et ils sont partis chacun de leur côté faire leurs études ensuite. Et ce qui s'est passé d'assez particulier pour Julien, c'est que à un moment donné, parce qu'il était dans une histoire d'amour avec une jeune femme qui s'appelait Magali. À ce moment-là, il était étudiant à Montpellier. Une histoire d'amour qui tournait mal, qui était minée par la jalousie. Il va convoquer le souvenir d'Alexandre pour se sortir de cette histoire, conflictuel. Il était avec Magali comme deux taureaux qui se tapaient la tête l'un contre l'autre, et c'est ce qui peut-être donnait du sens à leur histoire, une histoire très conflictuelle. Et puis, à un moment, en repensant à ses années au lycée avec Alexandre et à comment ça s'était mal fini pour lui avec Alexandre, il s'est mis à la place d'Alexandre. Et il a réussi à lâcher sa dureté. C'est pas quelque chose de facile. Je pense que la dureté, on l'a tous en nous. Mais c'est difficile de réussir à... Et ça arrive, puis après ça revient. Et à un moment donné, il réussit ça, à lâcher sa dureté. À partir de ce moment-là, le conflit avec Magali n'a plus de sens. Il y a un déséquilibre qui s'opère et la séparation devient possible. Elle devient évidente. Julien réussit à quitter Magali et il le doit à Alexandre. Alors il va continuer à vivre avec cette espèce de guide moral ou de mentor qui lui transmet quelque chose qui est de l'ordre de la douceur, de la sensibilité. Je crois qu'à un moment, il dit qu'Alexandre lui a appris à réfléchir, à être moins bête. Et Alexandre va devenir une influence un peu fictive, quoi. Il va même l'arranger à sa sauce. Il va en faire le modèle qui lui convient, quoi, dont il a besoin.
Et ça fait un peu écho d'ailleurs à la figure du grand-père, à ce fameux John, en fait, à l'idée comme ça de figure très matricielle, très formatrice d'une certaine manière. Pierrick Bailly, est-ce que vous diriez que l'histoire d'amour dans laquelle il se lance avec la femme d'Alexandre autour du procès, où Alexandre se défend en effet bizarrement en cherchant au plus près, non pas à s'en sortir, mais à dire le vrai, le plus pur, le plus transparent, c'est la chance inespérée pour Julien de vivre un peu de sa vie, d'être un peu Alexandre?
Ah, de vivre, de prendre sa place, bah c'est ce qui va un peu se passer, oui, ça c'est sûr. Et comme il est très influençable et qu'il se construit, oui, dans le reflet du grand-père et des autres, et bien peut-être qu'il y voit une occasion, mais je crois qu'il s'en rend pas compte sur le moment. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il a l'occasion à ce moment-là de revivre quelque chose de bouillonnant de l'ordre des émois adolescents, quoi. La passion elle peut nous traverser à l'adolescence, que certains peut-être ont la chance de vivre vraiment, ont l'occasion de vraiment en connaître, mais ça n'a pas été son cas. Lui, c'était un amoureux, c'était un gamin romantique dès l'école primaire. Il pensait plus aux filles qu'à se battre avec les autres, où il n'avait pas la passion des voitures ou du foot. C'était vraiment un enfant sentimental, mais qui s'est jamais autorisé à s'en ouvrir auprès, par exemple, des jeunes filles qui l'attiraient. Et il a accumulé peut-être, alors je ne sais pas si c'est de la frustration, mais en tout cas, il a connu ces émotions bouillonnantes, mais il n'a jamais eu l'occasion de vraiment les partager, quoi, avec les personnes qui l'attiraient. Et à ce moment-là, il a comme l'occasion de rattraper quelque chose. Il retombe en adolescence, en fait. Il a de nouveau 10 ans, il est de nouveau collégien. Et c'est un peu... C'est peut-être un cliché, mais ça ressemble à ce qu'on appelle la crise de la quarantaine.
Je voudrais qu'on écoute la voix d'une autre auditrice, lectrice, elle s'appelle Sophie, et elle fait elle aussi le portrait d'un homme qui attend, peut-être un homme sur lequel les choses tombent comme la foudre, Pierrick Bailly.
Bonjour le Book Club, bonjour Pierrick Bailly, j'ai lu La Foudre, et ça a été un véritable coup de cœur. Moi, la citadine pure et dure, je me suis surprise à garder les brebis avec Julien et à aimer. J'ai aimé les alpages, j'ai aimé cette nature, j'ai été transportée, vraiment, merci pour ça, vous m'avez ouvert un nouvel horizon. Par contre, dans mon inconscient, j'ai l'image du berger qui est un homme fort, solitaire, parce qu'il faut pour moi avoir beaucoup de caractère pour supporter ces mois d'isolement, le repli sur soi. Et j'ai trouvé, à contrario, que Julien manquait de combativité en amour. Donc j'aurais voulu savoir si pour vous c'était un véritable parti pris, parce que je l'ai trouvé vraiment passif par moment, alors que c'est quelqu'un de vraiment bien. Et j'ai envie de conclure, si vous permettez, par une injonction. J'aimerais que vous nous fassiez une suite. Ne nous laissez pas sans savoir. Vous ne pouvez pas nous laisser avec notre imagination. C'est la vôtre que nous voulons.
D'accord.
Je vous remercie.
Voilà, Pierrick Bailly. Alors, c'est à la fois une question et à la fois un souhait de la part de Sophie qui vous adresse cette question. Peut-être sur la passivité, une poursuite de ce que vous essayez d'écrire autour du personnage de Julien et un éclairage éventuellement sur le titre que vous avez choisi à ce roman. La foudre, c'est par essence le truc auquel on ne peut rien. Pas grand-chose, on peut éventuellement s'en protéger, mais ça tombe, la foudre.
Oui, merci à Sophie. Je peux lui répondre que peut-être que c'est parce qu'il est passif que c'est un mec bien et que cette apparente passivité, elle permet justement de prendre le temps, de réfléchir. Et moi, je suis pas sûr qu'il soit si peu acteur dans cette histoire d'amour. Mais comme vous dites, par contre, c'est une histoire qui lui tombe dessus, qu'il ne voit pas venir, et qu'il n'a pas souhaité. C'est peut-être ça qui donne cette impression.
Elle soulève, Sophie, l'idée du berger solitaire et endurci aussi, et que votre narrateur Julien va contre ce solitaire qui aurait bâti la plus grosse des murailles autour de lui.
Déjà, la fragilité n'empêche pas le caractère, et je pense que c'est le cas du personnage. D'ailleurs, à un moment, il dit qu'il n'aime pas l'idée de la timidité, que justement, la timidité, il l'associe au manque de caractère et que ça, non. Par contre, être considéré comme discret, comme taiseux, pourquoi pas, mais timide, non, ça ne lui plaît pas. Et ensuite, sur le berger, je voulais voir ça pour le coup, mais ça me vient de cet ami d'enfance que j'ai retrouvé, faire le portrait d'un berger d'aujourd'hui et qu'il soit peut-être loin du cliché qu'on a du berger isolé dans son chalet d'alpage, un peu excessivement bourru, même si Julien l'est par moments, mais il n'est pas que ça, quoi. Et donc, oui, c'est un berger contemporain qui, en plus de son caractère, de sa sensibilité, fait avec aussi les outils de l'époque. Donc, c'est vrai que ça peut casser le mythe un peu d'une vision un peu romantique, puisque lui, il a des parcs électrifiés, il rejoint son chalet avec son 4x4, et puis il a même un smartphone à un moment donné.
Waouh! Je voudrais juste revenir, Pierrick Bailly, sur l'idée de la passivité comme une force ou de la passivité qui ferait de Julien un mec bien. À la fin du roman, il attend. Il attend que revienne la foudre, il attend aussi peut-être que revienne l'amour. Et vous le disiez, il avance doucement. Il y a quelque chose de, je ne sais pas si moi je dirais de la passivité, mais en tout cas, il y a une délicatesse dans son rapport à Nadia, y compris dans son rapport physique, dans les rapports sexuels. Vous avez une manière d'écrire à la fois ses rapports sexuels, mais aussi les réminiscences de ces rapports sexuels, du plaisir pris ensemble, qui est plus souvent, peut-être que je me trompe, lu comme étant féminin. Les femmes qui attendent, les femmes qui se souviennent de l'étreinte, les femmes qui attendent le retour de l'homme. J'ai eu l'impression d'une petite inversion à cet endroit-là. Là encore, pas volontaire, pas déclarative, néanmoins.
Je comprends très bien ce que vous dites. Je le constate dans mes lectures. Et... Oui, c'est peut-être un personnage, peut-être que cette fragilité, c'est un trait, je sais pas si c'est un trait féminin, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui assume cette part-là, cette sensibilité-là, peut-être qui affirme une sensibilité féminine, oui, c'est tout à fait possible. C'est à la fois pas une volonté, c'est pas conscient, et c'est pas une intention, en fait, quand j'écris, mais j'en ai tout de même un peu conscience, parce que je lis, et parce que j'ai envie, au contraire, de faire des personnages masculins qui soient ceux-là. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que permet la première personne, le fait de regretter, le fait de s'en vouloir, ou de rêver. C'est un rêveur, c'est quelqu'un qui rêve, qui fantasme, qui se projette. C'est pas quelqu'un qui est... Dans l'instant présent, comme on nous invite à l'être aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas vraiment. Je trouve que l'idée d'être dans l'instant présent, c'est d'être coupé de ses émotions, de couper de quelque chose qui est propre à la nature humaine. Et je crois qu'être humain, c'est justement toujours penser à ce qui s'est passé avant et à ce qui pourrait advenir.
Il y a un moment de procès, je le disais, et toute une mécanique d'aveu, de défense et de mensonge dans la vie civile. Je voudrais qu'on écoute en dernière archive la voix de Nathalie Frogneux parler du mensonge.
On peut mentir dans sa vie, par sa vie, et ce n'est pas toujours dans sa parole que l'on ment. Je crois qu'en fait, chacun rencontre le mensonge tous les jours. Je pense que tout le monde ment tous les jours, avec des mensonges évidemment plus ou moins graves ou plus ou moins légers. Tout le monde ment en fait parce que nous sommes libres et que le mensonge est toujours un signe de liberté. On prend des libertés par rapport aux autres, on prend des libertés par rapport au contexte ou par rapport à une réalité. Le mensonge est le signe de la liberté de notre conscience et de notre parole et puis finalement de nos actions. Ce qui est dommageable, c'est quand les mensonges ont du succès, parce qu'alors on a un problème, c'est comment en sortir pour se réconcilier avec les autres que l'on a trompés ou auxquels on n'a pas tout dit, comment faire pour retrouver cette réalité que l'on a décrite avec beaucoup de liberté, beaucoup de distance. Là, ça devient compliqué.
C'est la voix de la philosophe Nathalie Frogneux, professeure d'université à l'Université catholique de Louvain. Il y a quelque chose, Pierrick Bailly, qui interroge ça, justement, où est la vérité, qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire, comment un mensonge peut sauver quelques semaines, quelques mois de vie, quelques années. Évidemment, ça renvoie aussi à la construction de la fiction et au fait que vous êtes en train d'écrire un roman, Pierrick Bailly, et qu'il y a quelque chose qui se construit dans la... dans un mensonge de la fiction. Mais moi, j'ai aussi pensé en vous lisant à deux films de femmes, Anatomie d'une chute de Justine Trier et Saint-Omer d'Alice Diop, qui sont des films de procès. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant en ce moment dans la production de fiction de s'intéresser à cette forme-là, du procès, d'un endroit où on doit dire la vérité et les multiples versions d'un fait. Qu'est-ce qui vous intéressait à cet endroit-là du procès, Pierrick Bailly ?
Comme vous l'avez dit, hein, je crois que c'est la question de la vérité qui est une question impossible à résoudre, et c'est pour ça qu'elle est passionnante. C'est une question un peu trop grande pour l'enfermer dans un livre ou en parler en quelques mots. Mais moi, justement, c'est justement parce que pour moi, la vérité se situe plutôt du côté d'une sensation, d'un trouble, que d'une idée arrêtée.
Dire à la barre sans ciller.
Voilà, par exemple. Alors là, il s'agit de la vérité, peut-être de quelque chose qui est propre à l'être humain ou de la condition humaine. Quand je parle du trouble, il y a des vérités à propos de certains sujets qui sont implacables, qu'on peut pas discuter ou qu'on peut choisir. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'idée de la vérité, c'est justement qu'elle implique le mouvement, parce qu'elle implique la complexité, la contradiction. Que la vérité, c'est toujours un peu une chose et son contraire.
Le moment du procès est un moment où petit à petit, Nadia va mentir à la fois à son entourage, demander à ses enfants de mentir, s'inventer une vie pour que les choses tiennent, pour qu'elle-même, elle tienne le choc. Est-ce que la littérature et l'écriture, j'en reviens presque à ce qu'on se disait au début, Pierrick Bailly, c'est aussi une façon de tenir, de faire tenir les choses ensemble ?
C'est évident, oui. C'est l'endroit où... on arrive à construire ce qui n'est peut-être pas possible de faire tenir aussi bien dans la vie, déjà en maîtrisant le début, le développement, la conclusion. Et puis c'est l'endroit où le mensonge est un peu plus facile à utiliser, je crois, parce que voilà, il n'y a pas le risque d'aller trop loin et d'y croire comme on l'entendait tout à l'heure. Et oui, c'est très juste, je suis d'accord.
La foudre, c'est le titre de votre roman. Il a paru en cette rentrée littéraire aux éditions POL et à moi aussi. C'est un de mes grands coups de cœur. Merci beaucoup, Pierrick Bailly, d'avoir été avec nous.
Merci.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il est bientôt 15h50 sur France Culture et à cette heure-ci, le lundi, on a rendez-vous avec vous, Emmanuel Laurentin.
Eh oui, bonjour Marie.
Bonjour. Pour Lecture d'Actu, alors c'est une chronique où on vous demande de relier un fait d'actualité avec un ou plusieurs imaginaires littéraires. On peut dire que l'exercice est poussé ce lundi dans sa radicalité parce que vous avez décidé de choisir comme fait d'actualité, un peu avec évidence, l'événement qui a été l'attaque du Hamas et la déclaration d'une nouvelle guerre sur le territoire israélo-palestinien. Il il m'a semblé, quand vous m'avez envoyé ce message pour dire que vous alliez vous emparer de cet événement, qu'on poussait l'exercice au plus loin, c'est-à-dire vraiment juste après l'effroi, juste après l'annonce, être capable d'aller chercher des fameux livres dans sa bibliothèque. Et vous, vous vous êtes intéressé au rôle particulier joué par les images dans ces deux jours qui viennent de s'écouler depuis l'attaque, Emmanuel.
Oui, et je suis allé chercher dans ma bibliothèque un livre qui n'existe plus qu'à un exemplaire, alors qu'auparavant je l'avais en plus de 10 exemplaires, mais je les ai donnés ou distribués à diverses occasions à mes amis. Car ce livre, pour moi, est fondamental dans l'histoire de la propagande au XXe siècle. Il s'appelle « La fausse parole » et il est signé d'un poète, Armand Robin, décédé en 1961, communiste revenu du communisme après son voyage à Moscou, à l'avant-guerre, breton plurilingue, poète, condamné par le Comité national des écrivains à la libération. Il vécut en brouillant les pistes après-guerre d'un bulletin d'écoute des radios internationales de la guerre froide dont il tira les leçons dans cette même fausse parole.
Et alors, qu'est-ce qu'il fait dans cet ouvrage Fausse parole et qui a pu peut-être vous intéresser au moment justement de ce week-end de nouvelles très agitées?
Oui, il parle de la radio déjà, de la parole. En prélude, il se demande pourquoi le poète ou le grammairien est dans le vrai en proposant des ensembles de mots étranges. Et pourquoi le politicien, lui, en usant du même, avec les mêmes mots étranges, avec le langage, se trouve comme mécaniquement dans l'erreur. Et à l'écoute des radios de propagande, il finit par comprendre que l'adversaire désigné par la propagande est ontologiquement le mal. Par conséquent, il n'a pas le droit à l'existence, encore moins à de justes paroles. Il doit être verbalement annihilé, dit Armand Robin, annihilé de n'importe quelle façon en attendant d'être anéanti physiquement à son sujet. Le plafond de l'absurdité doit être à chaque instant crevé et l'absurdité doit être parfaite afin de décourager et l'esprit et le moyen de l'esprit, c'est-à-dire le verbe. Rien ne doit rien signifier. Et Armand Robin de décrire le portrait de la France par Radio Bucarest en 1951 ou par la radio russe stalinienne qu'il écoute la nuit, car dit-il, j'ai besoin chaque nuit de devenir tous les hommes de tous les pays, attroupés depuis le début de la nuit, toutes les paroles des hommes en guerre donnent l'assaut à ce gîte pour caillot de sang qu'est le cœur. Et il évoque évidemment, dans cette question, il écrit aussi que on est au moment où arrive la télévision en France, on est en 1953, et il parle de cette expérience de la télévision. Et son expérience de la radio, de propagande, l'alerte sur l'image qui arrive dans notre salon. Il entrevoit le peuple des télécommandés, dit-il. Pour me distraire, je convoquerai chez moi la machine à voir, elle vint. Elle était luisante et avenante, jeunette encore, elle se tenait modestement et commis pourtant sans tarder quelques imprudences qui m'instruisirent, dit-il. L'engin à image ne fait pour l'instant que plaire, mais il est logiquement appelé à servir de redoutables opérations de dénomination et de domination mentale à distance. Il ne se peut pas qu'à travers lui ne soient tentés des travaux visant à dompter, à magnétiser de loin en loin des milliers et des millions d'hommes. Par lui, une chape d'hypnose pourrait être télédescendue sur des peuples entiers de cerveaux.
On peut dire que la prophétie d'Armand Robin a été réalisée, évidemment avec la télévision, mais peut-être plus encore, Emmanuel, avec les réseaux sociaux aujourd'hui.
Oui, et en fait, j'ai tiré de ma bibliothèque un autre livre que vous aimez beaucoup, je crois, Marie. Et c'est le livre du magnifique roman de David Grossman.
Alors, Emmanuel, je ne l'ai pas encore lu. J'ai rendez-vous avec ce livre-là, mais je ne l'ai pas encore lu.
Une femme fuyant l'annonce. Un roman d'une composition complexe et intrigante donnant à comprendre le combat d'une mère de soldats israéliens qui part 28 jours en opération dans les territoires. Tout au long de ce texte, elle repousse la possibilité qu'on puisse lui annoncer la mort de son fils. Mais avant cela, il y a cette scène, et c'est à cette scène que j'ai pensé en lisant Armand Robin et en regardant les images. Elle a accompagné son fils au point de départ de son opération, puis elle est rentrée chez elle, et là, elle se trouve devant la télévision. À 20h, elle grimpe au mur, dit David Grossman. Quelle n'est pas sa surprise quand elle croit se reconnaître à la télévision, embrassant au fer son fils pour lui dire au revoir. Elle bondit sur ses pieds, renversant une chaise au passage et colle son nez à l'écran sur son fils, lequel la fait pivoter avec une morgue un peu autoritaire vers la caméra pour montrer à l'opérateur sa mère folle d'inquiétude. À la réflexion, c'était vraiment déloyal de la façon dont il l'avait exhibée devant l'objectif. Elle avait aussitôt discipliné ses cheveux avec les doigts et affiché un sourire obséquieux qui signifiait « qui ça ? Moi ?» Quoi qu'il en soit, la duplicité couvait entre eux depuis la veille, lorsqu'il avait décidé sans rien dire de s'engager dans cette prochaine expédition militaire. Et puis, quelqu'un tend un micro entre eux. Qu'est-ce que un fils peut dire à sa mère en pareille circonstance? Questionne le journaliste l'œil amusé. Garde-moi une bière. Garde-moi une bière au frais jusqu'à mon retour, glousse le fils, dans l'hilarité générale de ceux qui sont là. Attendez, j'ai encore quelque chose à lui dire, poursuit son fils sur l'écran avec un sourire entendu. Le visage animé, fixant l'objectif d'un regard brillant et expiègle, il colle sa bouche contre l'oreille de sa mère. David Grossman ne nous dit pas tout de suite ce que dit le fils à sa mère à ce moment crucial, mais il nous dit combien l'image et son enregistrement perturbent notre rapport aux autres et l'outrance des images, leur indécence comme celle du Hamas, nous bouleverse et nous transforme.
Qu'est-ce qu'on lit, Emmanuel? Qu'est-ce qu'on ouvre comme livre?
Ah ben on ouvre La fausse parole de Armand Robin et on ouvre donc évidemment Une femme fuyant l'annonce de David Grossman.
Merci beaucoup Emmanuel Laurentin. Lecture d'actu est à réécouter sur franceculture.fr. Et c'est l'heure de jouer, malgré tout, au grand jeu des pages musicales du Book Club. J'en rappelle le principe, vous êtes en train de lire un livre, vous repérez l'évocation d'un air musical dans un paragraphe, ou bien vous prenez une photo, ou bien vous retranscrivez le paragraphe. Vous nous l'envoyez, pourquoi pas, par mail, @lebookclub@radiofrance.com, ou bien en passant par la communauté Instagram du Book Club de France Culture. On doit la trouvaille du jour à Stéphane Lambert, qui nous envoie tout simplement un extrait de son propre livre, paru aux éditions Grasset, en 2022, le livre s'appelle « Ton absence n'est que ténèbres ». Ça raconte l'histoire d'un homme amnésique qui se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni comment il est arrivé là. Tout le monde semble le connaître, mais lui n'a aucun souvenir ni de Soleil, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa sœur, Runa, ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à petit, se déploient différents récits, le plongeant dans l'histoire de sa famille du milieu du 19e siècle jusqu'en 2020. Je dois trouver le courage de me regarder en face, ici et maintenant. Ce n'est qu'à ce prix que je pourrai faire la paix avec le jeune homme qui vient hanter mes rêves. Et une des étapes importantes de ce processus est de t'écrire une lettre, mon cher Eirikur. Je serai heureux que tu me répondes, même en quelques mots, même en style télégraphique. Mais je n'exige rien de toi. J'espère uniquement que tu liras ces lignes. Je tiens à me garder de tomber dans l'ornière qui consisterait à me chercher des excuses. Je préfère discuter avec toi de tout et de rien, comme je le ferais avec n'importe qui. Est-ce que tu te souviens de Yesterday is Here, que revienne hier, sur l'album Frank's Wild Years? C'est une chanson superbe, une perle sur laquelle il m'est arrivé de danser joue contre joue dans les bals de campagne. Elle m'accompagne depuis le jour où je l'ai découverte. Peut-être parce que j'ai l'impression que Tom Waits a enchâssé le cœur de ma vie dans cette belle chanson triste. Le sentiment qu'il raconte, la manière dont mon existence s'est arrêtée. Well, today is grey skies, tomorrow tears. You'll have to wait till yesterday is here. Aujourd'hui, les cieux sont gris, demain ce seront les larmes. Tu devras attendre que revienne hier.
Pat on your head, a hot meal on your table, and a blanket on your bed. Well, today's grey skies, tomorrow's tears. You'll have to wait till yesterday's here.
Au son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi à la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. Léa Weissgruss, Jeanne Aléos, Didier Pinault, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Alexandre Alaï-Begovitch, Anouk Delfino et Mathilde Wagman. Vous pouvez réécouter les émissions sur franceculture.fr. Vous pouvez rejoindre la communauté du Book Club via notre compte Instagram. Et puis pensez à nous envoyer vos trouvailles de lecture pour le grand jeu des pages musicales. Je redis l'adresse, lebookclub@radiofrance.com. Très bel après-midi sur France Culture.